Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qu'il a faite, d'abord l'histoire de la civilisation qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie, en particulier c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité.
Heureusement, je n'étais pas vouée à un destin de ménagère. Mon père n'était pas féministe, mais nécessité fait loi. Vous, mes petites, vous ne vous marierez pas, répétait-il souvent. Vous n'avez pas de dot, il faudra travailler. Je préférais infiniment la perspective d'un métier à celle du mariage. Elle autorisait des espoirs.
Le grand atelier.
Il y avait eu des gens qui avaient fait des choses. J'en ferai.
Sur France Inter.
Je ne remercierai jamais assez Kathleen Evin, notre amie de l'humeur vagabonde, de m'avoir conseillé récemment de lire « Une mort très douce » de Simone de Beauvoir et « La cérémonie des adieux ». Son dernier livre paru en 1981, 5 ans avant sa mort, en 86, à 78 ans. Dans l'un, la présence de l'écrivain auprès de sa mère mourante, et dans l'autre, les 10 dernières années de Sartre. Quelle lecture, quel style clair, direct et quelle intelligence. C'est de ces lectures que le désir d'un grand atelier fantôme est né, avec l'espoir de vous donner envie de lire ou relire celle que ses amis normaliens surnommaient le Castor. Pourquoi dit-on qu'elle fut l'une des femmes les plus influentes du XXe siècle? Quels furent ses mots sur la condition féminine? Qu'ont-ils apporté aux femmes? Encore une fois, nous parlerons de ce qu'a écrit Beauvoir dans ses mémoires, dans ses romans, dans ses essais, l'incontournable deuxième sexe. Par exemple, nous parlerons de l'écrit. D'ailleurs, est-ce qu'on lit encore Simone de Beauvoir et quoi précisément? Eh bien, en promenant son micro dans les rues de Rennes, où il se trouvait le week-end dernier, notre reporter Jean-Baptiste Urbain a recueilli quelques réponses.
Ça date de mes années d'étudiante, mémoire d'une jeune fille rangée et le deuxième sexe. Et c'était deux grands livres qui m'ont un peu secoué la tête.
Simone de Beauvoir, oui. Ça vous évoque quoi?
Eh bien, le féminisme, bien sûr. Oui, elle a fait beaucoup pour les femmes, hein, c'est une évidence, oui. Dire que j'ai lu vraiment non. Mais j'ai lu des reportages une fois dans le Nouvel Observateur qui étaient très très intéressants.
Ce n'est pas que la compagne de Jean-Paul Sartre. Hein, elle a une vie amoureuse assez intense et moderne. Voilà.
Jacques Arthes, bouquiniste à Rennes. On est place Hoche sur le marché aux livres de Rennes qui se tient tous les jours quand il fait beau.
Et alors Simone de Beauvoir, elle se vend?
Alors Simone de Beauvoir, oui, on en manque souvent, on en a pas assez. C'est très demandé par tout ce qui est étudiant, étudiante, étrangère. Et puis c'est une ville assez féministe, Rennes, donc non, c'est des ventes soutenues.
Elle se vend plus que Jean-Paul Sartre?
Ah ben Jean-Paul Sartre, là, si c'est pas recommandé, s'ils ne sont pas obligés de le lire, ça se vend plus du tout.
Bonjour Geneviève Fraisse.
Bonjour Vincent.
Vous êtes philosophe, historienne de la pensée féministe. On vous doit des essais comme Les excès du genre, mais aussi Le privilège de Simone de Beauvoir. À vos côtés, il y a un enseignant à Rouen. Je ne sais pas si vous connaissez Jean-Louis Janel. Bonjour.
Bonjour.
On vous doit avec Eliane Le Carme Tabonne la sortie des mémoires de Beauvoir dans la Pléiade. Geneviève Fraisse, un micro-trottoir n'a pas de valeur scientifique, mais les femmes que nous entendions à Rennes ont toutes cité les mêmes livres. Mémoire d'une jeune fille rangée et Le deuxième sexe comme des lectures de jeunesse.
Oui, vous avez cité Une mort très douce, qui est mon livre préféré aussi, qui est un très très grand livre sur la mort de sa mère.
Oui, les derniers jours, les derniers instants avec elle.
Voilà. Donc, elle n'est pas la première écrivain ou écrivaine à écrire sur la mort de sa mère, mais ce texte est absolument...
Bouleversant.
Bouleversant et sans doute le condensé de son écriture.
C'est la même chose pour vous, Jean-Louis Janel, parmi les mémoires. Il y a beaucoup de livres de mémoires de Beauvoir. Est-ce que Une mort très douce est un chouchou?
Peut-être celui par lequel il est le plus facile d'entrer dans son œuvre, mais personnellement, je préfère La force de l'âge ou La force des choses qui, pour moi, caractérise ce qu'il y a de plus riche chez Beauvoir, cette manière de prendre le monde à bras-le-corps, d'embrasser toutes les formes de vie, de mêler l'intime et le collectif, de passer d'un plan de vie à un autre. Il y a une richesse dans La force de l'âge et La force des choses qui
me plaît. Un livre de mémoire écrit en 1960, celui-là.
1960 pour La force de l'âge et 1963 pour La force des choses.
Oui. Il y a eu un avant et un après lecture de Beauvoir pour vous, Geneviève Fraisse. Vous la lisez quand, vous? Est-ce que c'est l'étudiante qui a découvert Beauvoir?
Non, mais nous, on ne lit pas Simone de Beauvoir en 70, parce qu'on est tellement prise par ce qui est en train de se passer entre 68 et la suite de 68. Non, on la rencontre, on fera des choses avec elle, on la lit en partie, c'est la dernière icône. Hein. Moi, la la chose qui m'intéresse le plus et sur laquelle j'ai beaucoup tourné autour ou écrit, c'est son introduction au deuxième sexe que je prends pour un discours de la méthode. C'est-à-dire à quelles conditions puis-je écrire sur une question. Ça, c'est un éclairage philosophique particulier.
Jean-Louis Janel, il n'y a pas de lecture genrée hein, concernant Beauvoir. Vous êtes la preuve vivante qu'un homme peut se passionner pour Beauvoir. Vous aimez ses mémoires, vous en êtes un des spécialistes en France, mais est-ce que vous lisez tout Beauvoir avec le même plaisir ?
Peut-être plus ses mémoires que ses romans, à vrai dire, mais non, je lis tout avec le même plaisir, mais je pense que j'appartiens à ma génération de ce point de vue, c'est-à-dire que dans ma jeunesse, je lisais beaucoup Sartre, le discours du bouquiniste est très intéressant de ce point de vue,
oui.
Je lisais assez peu Beauvoir, je l'ai découvert finalement assez tardivement, alors qu'aujourd'hui j'appartiens à cette génération qui lit beaucoup plus Beauvoir que d'une certaine manière que Sartre.
Comment l'expliquez-vous ?
Beauvoir nous parle plus, les questions qu'elle soulève, l'intrication entre sa vie et son œuvre nous sont plus urgentes. Elle appartient à ce moment, la coïncidence de la sortie de la Pléiade et le phénomène MeToo n'est pas un hasard, à vrai dire. Beauvoir est quelqu'un qui parle à notre génération, à notre temps.
Je peux savoir votre âge ?
46.
46 ans. Geneviève Presse, vous êtes d'accord, vous opinez du chef.
Ce qui est stupéfiant chez Beauvoir, dans son écriture, telle que je la lis aujourd'hui, c'est à quel point c'est nourri et innervé d'une culture philosophique et littéraire hallucinante. À chaque moment, je trouve des références à des grands philosophes, à des grands textes. D'ailleurs, pour reprendre le mot privilège, elle l'emprunte à Stendhal. Si c'est sur la vérité, on entend Nietzsche. Si c'est Briguériot, comme elle aime, c'est Montaigne. Si elle parle de fécondité absurde, c'est son rapport à la philosophie de Camus.
Et pourtant, on peut la lire assez facilement, je trouve, en tout cas pour ses mémoires.
On la lit sans chercher les références, mais si jamais on la lit et qu'on la relit, on entend tout d'un coup tout ce qu'elle a brassé. Hein, c'est comme quand elle dit « J'entre dans la bibliothèque Sainte-Geneviève et tout m'est donné, quoi.
Oui.
Je suis goulue », dit-elle. Elle a une passion pour la lecture.
Qui commence très tôt, on aura l'occasion d'en parler.
Qui commence très
tôt. Elle est toute petite et elle dévore déjà. D'ailleurs, c'est vrai, goulue, avide, dévoré sont des termes qui correspondent très bien à Beauvoir, hein, Jean-Louis Janel.
Oui, puisque le fil conducteur de l'œuvre de Beauvoir, c'est la question de la présence au monde. Beauvoir est celle dont toute la vie a été portée par ce souci d'être à tout ce qu'elle fait, de saisir le monde. D'où, d'ailleurs, au tout début de l'enregistrement qui ouvrait cette émission, l'importance qu'elle accordait au fait d'avoir pu avoir accès à un métier. Avoir un métier, c'était pour elle la condition, contrairement à ce qui se passait pour les filles de sa génération, d'une vraie présence au monde, de ne pas passer toujours par médiation d'un homme, d'un mariage. Il fallait pouvoir être responsable de tout ce que l'on fait, de tous les choix que l'on porte. Et Beauvoir est tout entière dans ce souci d'être aussi bien dans ses relations avec les autres, dans le rapport à la politique, dans les engagements qui sont les siens, le rapport à l'histoire, dans la guerre d'Algérie, le souci qu'elle avait, le fait qu'elle se sentait personnellement concernée par les événements. Cette capacité à être investie par le monde tout entier, c'est vraiment Beauvoir.
Mais on va développer tout ça dans ces deux heures, ça va être passionnant, ce grand atelier fantôme Simone de Beauvoir. Mais je voudrais qu'on écoute d'abord Gréco, Juliette Gréco, qui comme Sartre et Beauvoir a été une icône de Saint-Germain-des-Prés à Paris, le Saint-Germain de l'après-guerre. Et Juliette Gréco, en 2012, a rendu hommage à l'écrivaine avec un texte de Marie Nimier, La Passerelle. Et oui, parce qu'il existe une passerelle Simone de Beauvoir à Paris, entre le 12e et le 13e arrondissement. Vous l'avez peut-être déjà emprunté, je ne presse, avec une petite émotion.
Non. Enfin, surtout,
je suis trop romanesque.
Surtout d'être contente que des femmes apparaissent dans les rues et dans les bâtiments et autres à Paris. Ça manque encore.
Juliette Gréco, La Passerelle.
Il y a des femmes qui sont des ponts, qui ont le don d'ouvrir les portes, et celle qui a donné son nom à la passerelle est de la sorte. Il y a des femmes dont le destin est de faire des pas de géant, de créer de nouveaux chemins, de passer le fleuve autrement. Le pied léger, l'esprit rebelle, nous traversons la passerelle. Simone de Beauvoir, c'est son nom. Ça nous change un peu les garçons, ça nous change des vieux ponts de pierre, ça nous change des vieux ponts chagrins, comme une déclaration de guerre au cliché des ponts parisiens. la dame au turban, comme un guide et son cortège de pensées. Elle qui disait « Le ciel est vide », la voilà immortalisée. Ça me fait du bien qu'elle soit là, comme un éclat, un trait d'esprit, une lanière que l'on projette et qui vient réveiller Paris. Le pied léger, l'esprit rebelle, nous traversons la passerelle. Simone de Beauvoir, c'est son nom, ça nous change un peu des garçons. Elle savait la force des choses, du combat pour la liberté. Je jette à ses pieds une rose et je continue à marcher. En route vers la bibliothèque, partons à la chasse au trésor pour traverser la Seine à sec. Il nous fallait bien un castor. Elle qui disait que la beauté se raconte moins que le bonheur, se retrouve aux fatalités, à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Le pied léger, l'esprit rebelle, je traverse la passerelle. Simone de Beauvoir, c'est son nom, ça me change un peu des garçons. Ça me change des vieux ponts de pierre, ça me change des vieux ponts chagrins, comme une déclaration de guerre au cliché des ponts parisiens.
Le Grand Atelier sur France Inter.
Curieuse d'autrui, je ne rêvais pas d'un sort différent du mien. En particulier, je ne déplorais pas d'être une fille. Je n'avais pas de frère. Aucune comparaison ne me révélait que certaines licences m'étaient refusées à cause de mon sexe. Je ressentis vivement mon enfance, jamais ma féminité. Dans mes jeux, mes ruminations, mes projets, je ne me suis jamais changé en homme. Toute mon imagination s'employait à anticiper mon destin de femme. Ce destin, je l'accommodais à ma manière. Méprisant les autres enfants qui s'en amusent avec incohérence, nous avions, ma sœur et moi, une façon particulière de considérer nos poupées. Elles savaient parler et raisonner. Elles vivaient dans le même temps que nous. C'étaient nos doubles. Nos maris imaginaires voyageaient. Dans la vie, je le savais, il en va tout autrement. Une mère de famille est toujours flanquée d'un époux. Mille tâches fastidieuses l'accablent. Quand j'évoquais mon avenir, ces servitudes me parurent si pesantes que je renonçais à avoir des enfants à moi. Ce qui m'importait, c'était de former des esprits et des âmes. Je me ferais professeur, décidai-je. Je ne concevais pas que l'avenir pût me proposer entreprise plus haute que de façonner un être humain.
Vous avez reconnu cette lecture de Guillaume Gallienne, Jean-Louis Janel ?
Les mémoires d'une fille rangée.
Alors c'est drôle de vous regarder, les auditeurs ne vous voient pas, mais je vais leur dire comment vous réagissez quand vous entendez cet extrait des mémoires d'une jeune fille rangée. Vous souriez comme si vous écoutiez une amie un peu intrépide.
Oui, parce que j'aime cette manière qu'elle a effectivement de transformer. Vous remarquez qu'elle insiste sur le fait qu'elle savait, elle n'ignorait pas les lois du genre d'une certaine manière, c'est-à-dire qui fixe le destin d'une jeune fille, s'applique à elle autant qu'à toutes les autres filles, et donc elle les subissait. Mais étrangement, et c'est Geneviève Fraisse qui a très bien montré ça. Étrangement, elle arrive néanmoins à les détourner à son profit, à supposer que les jeux de filles qui sont les siens la préparent déjà au professorat. Et derrière le professorat, bien sûr, se profile aussi la vocation littéraire. Former les esprits, c'est ce qu'elle fera précisément par le biais de la littérature plus tard.
Elle dit même donc façonner un être humain.
Façonner un être humain, ce qui est très audacieux. Ce qu'elle a fait d'ailleurs auprès de ses proches et de tous ceux qui ont composé la petite famille avec Sartre. Mais ensuite, par le biais de ses livres, elle conçoit la littérature comme une manière d'intervenir sur le monde, d'aider au destin de toutes ces lectrices et de leur fournir des sortes de clés. Donc il y a bien effectivement une manière de détourner le conditionnement genré, vous employez le mot, oui. Qui est le sien, pour préparer un avenir, ce qui est tout de même assez étonnant.
Moi, je voudrais juste citer deux moments qui font rupture dans l'histoire du XXe siècle et dans son histoire à elle. Le premier, c'est que en 1924, les filles vont pouvoir avoir accès au même baccalauréat que les garçons, donc passer l'agrégation masculine. C'est vrai de toute une génération, vous pouvez mettre Simone Veil aussi dans l'histoire, ma propre mère, Simone Fraisse, qui est une intellectuelle aussi à ce moment-là. Donc elles vont franchir une barrière qui simplement est tombée administrativement et qui leur ouvre un savoir illimité. C'est depuis plusieurs siècles qu'on y pense, à savoir comment limiter le savoir des femmes. Tout d'un coup, le savoir des femmes est possiblement illimité. Personne s'en rend compte.
Alors que elle c'est révolutionnaire.
Fonce. Alors que c'est révolutionnaire. C'est une rupture historique avec un grand R et une grande H. Alors on croit que simplement elles vont avoir accès à tel ou tel métier. Non, c'est pas ça. Le savoir devient pour elle illimité. Et donc, elle est goulue petite, elle est encore plus goulue puisqu'elle arrive au beau moment de l'histoire. Ça, c'est le premier événement qui me paraît important. Le second, c'est que elle va faire le contraire de ce que font les écrivaines. Elle va écrire ses mémoires tard, comme vous dites. Elle va parler d'elle tard. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir écrire au singulier, il faut qu'elle écrive au pluriel. C'est ce qu'elle dit. J'ai dit comment ce livre fut conçu, c'est dans La Force de l'âge, presque fortuitement. Voulant parler de moi, je m'avisais qu'il me fallait décrire la condition féminine.
D'où le deuxième sexe.
Et d'où le deuxième sexe. Donc, mais Sartre lui dit la même chose. Il dit, attendez, vous voulez raconter votre vie, mais d'abord, vous êtes qui ? Donc en fait, elle fait l'inverse de ce que font les femmes d'ordinaire, c'est-à-dire qu'elle va écrire sur toutes pour pouvoir écrire sur elle. D'où aussi la temporalité que vous soulignez, qui est extrêmement importante. En général, c'est le contraire. Vous avez des femmes qui écrivent des romans, qui écrivent sur elles, et puis il arrive un moment à 50 ans où elles se disent « Tiens, je devrais écrire sur la condition féminine. Oui. » Et elles se mettent à faire le livre. Et elle fait le contraire. Pourquoi ? Parce qu'elle a vraiment conscience du problème philosophique qui lui est posé, parce que c'est un problème philosophique de parler de la question des femmes. Vous dites les normes, le genre, est-ce qu'on est soumis ? Ben, on va être dans l'opinion, on va dire ce qu'on pense, on va dire ce qu'on veut. Et elle, elle dit non, il faut que je dise ce qui est, en philosophe.
Assez longtemps dans ma vie, j'avais pensé déjà à écrire le premier volume, parce que mon enfance, ma jeunesse, j'avais envie de les sauver. Il y a une telle différence entre une vie d'adulte et puis une vie d'enfant, d'adolescence, qu'on a l'impression un peu d'avoir enterré dans la femme qu'on est devenue, la petite fille et la jeune fille qu'on a été. Et alors c'était comme une espèce de, je sais pas, de devoir envers elle que je ressentais, de les ressusciter. Surtout qu'il y avait eu des moments de mon adolescence qui m'avaient été assez douloureux et elle s'est terminée par la mort de ma meilleure amie dans des conditions assez tragiques. Alors j'avais vraiment envie de rendre justice à la fois à moi-même et à la fois à cette amie et à tout ce que cette enfance et tout ce que cette jeunesse avait été. Donc c'était un projet qui revenait, qui remontait très loin. Et je pourrais dire qu'en un sens, je n'ai écrit mes autres livres, ceux d'avant, les romans, que pour avoir le droit un jour d'écrire cette histoire. Parce que naturellement, si j'avais été absolument personne, pas du tout connu, ça n'aurait pas eu de sens de raconter ses débuts. Il fallait déjà être un auteur un petit peu connu pour que ça veuille dire quelque chose de raconter le temps de mon apprentissage.
Née dans un milieu bourgeois, notre Simone de Beauvoir, notre fantôme du jour sur France Inter, mais qui va avoir très vite un rejet des institutions bourgeoises. Elle va dire, elle va l'écrire, j'avais un dégoût des institutions bourgeoises. C'est fort ce mot.
Un dégoût, oui, mais finalement pas si rapidement que cela, à vrai dire. Elle a
ça vient
même...
quand ?
Ça vient au contact de Sartre. Lorsqu'elle arrive à la Sorbonne et lorsqu'elle elle rencontre d'autres étudiants, elle prend conscience du caractère extrêmement figé de son éducation, mais à vrai dire, ce qu'elle a porté longtemps avec elle, elle adhère à ce monde pendant assez longtemps par beaucoup de traits. Simplement, elle a une distance rationnelle qui fait qu'elle en perçoit les contradictions, l'hypocrisie, très rapidement.
Elle dit qu'il y a une espèce de sottise chez les bourgeois.
Il y a une sottise très grande qu'elle voit, qu'elle perçoit dans l'esprit de son, par exemple, de son père, dans les jugements qui sont ceux de son père, politique.
Pour son père, aurait voulu qu'elle soit un fils, d'une part, et qu'elle soit polytechnicien.
Effectivement, il aurait aimé un fils et un polytechnicien, puisque le père était ruiné et qu'une fille sans dot, effectivement, n'est pas mariable. Le père regrettait cette espèce d'échec, sa fille, le destin de sa fille, la nécessité dans laquelle elle se trouvait de poursuivre des études
parce qu'elle ne pouvait pas être mariée, manifestait son échec. Donc il y avait une espèce de regret qui explique les contradictions. Il l'a poussée à faire des études tout en voyant en elle la manifestation de son échec social. Donc cette contradiction le faisait souffrir et la faisait souffrir, elle, en regard, effectivement. Mais elle n'a tiré les conséquences de ces contradictions qui étaient celles de son milieu bourgeois qu'à partir du moment où elle a pu vraiment s'en extraire et avec Sartre mener la vie qui lui convenait.
La philosophie lui a ouvert beaucoup de voies, hein, Geneviève Presse.
C'est exactement ce que je voulais dire. C'est une philosophe. Et on parlait d'une mort très douce, mais tous les hommes sont mortels. Le sang des autres sont des livres incroyables, sont des romans qui sont trop peu lus, je trouve, pour une morale dont l'ambiguïté est aussi un texte tout à fait étonnant. Tout ça est écrit avant le deuxième sexe. Donc c'est une philosophe. Donc son dégoût du monde bourgeois vient aussi, disons, de son organisation intellectuelle intérieure. Elle pousse extrêmement loin. Par exemple, quand elle dit, toujours pour continuer sur le fait qu'elle a envie d'écrire les mémoires, mais qu'en même temps, il faut qu'elle écrive le deuxième sexe. Qu'est-ce qu'elle dit dans La Force de l'âge ? Je sais aujourd'hui que pour me décrire, je dois dire d'abord, je suis une femme. Mais ma féminité n'a constitué pour moi ni une gêne, ni un alibi. Donc, elle n'a pas vu qu'elle était une fille. De toute façon, elle est une donnée de mon histoire et non une explication. Et c'est là, par exemple, où elle va être en avance sur les études de genre actuelles, par exemple. Une donnée de mon histoire et non une explication. C'est-à-dire, ne nous occupons pas des questions d'identité. Une donnée de mon histoire, c'est-à-dire quelque chose à partir de quoi je vais être obligée de réfléchir. Donc, elle a cette cohérence intellectuelle qui va la couper du monde bourgeois. Il n'y a pas que, si vous me permettez, que Sartre qui l'en éloigne. C'est aussi simplement le fonctionnement intellectuel.
Jean-Louis Janel, elle dit à un moment qu'elle mange le monde. Alors, elle dévore, on le disait tout à l'heure, la littérature. Elle se passionne pour Gide, entre autres, et beaucoup d'autres auteurs qui vont certainement lui transmettre l'envie d'écrire aussi. Mais comment est-ce qu'elle mange le monde? C'est-à-dire, comment elle regarde ce qui se passe autour d'elle? Est-ce que vous avez un aperçu quand vous lisez Beauvoir de ça?
C'est une forme de curiosité à l'égard du monde qui est vraiment très singulière, effectivement. Elle le dit dès les premières pages, lorsqu'elle raconte son enfance. Elle dit que le premier devoir qui était le sien était de manger, et elle le dit au sens concret, c'est-à-dire d'avaler ce qu'on lui donne, la nourriture, etc. Et elle se décrit avalant le monde par les yeux. Il y a une espèce de souci, de curiosité absolument incroyable qui est la sienne, qui va se voir ensuite à travers tous les récits qui sont les siens, notamment dans la façon dont elle a, lorsqu'elle voyage, de s'approprier le monde. Sartre appelait ça sa schizophrénie, mais le terme ne convient pas tout à fait. Elle a une manière de cartographier le monde, de créer des plans, des programmes, d'organiser des promenades, de visiter absolument tout, de vouloir ne rien manquer, aussi bien dans les rencontres que dans les visites à faire.
En allant aux États-Unis, en allant en Chine, en Russie, à Cuba.
Où qu'elle aille, il faut qu'elle prenne un sac, un sandwich, des sandales et qu'elle parte pour aller se promener.
C'est une promeneuse, Geneviève Fraisse ?
Alors, c'est surtout quelqu'un qui a décidé, comment dire les choses ? C'est pas, j'allais dire, de pas faire les choses comme tout le monde, c'est pas ça. Elle fait les choses à l'envers. Par exemple...
Vous aimez bien cette idée-là, hein ?
Oui, je l'aime parce que elle le fait pour « je suis une femme, donc je pense », au lieu de dire « je pense, donc je suis ». Elle le fait en disant « je vais écrire sur toutes les femmes pour pouvoir écrire sur moi ». Mais aussi, ce qui m'avait beaucoup frappé, je me souviens, c'était lors du colloque sur Simone de Beauvoir et la psychanalyse, il y a quelques années, où ce que j'avais voulu montrer... à travers cette façon d'être goulue et de vouloir le monde, c'est que la jouissance chez elle précède la souffrance. Et dans les écrits, je pense à Madame de Staël et à beaucoup d'autres femmes que je fréquente beaucoup, ce qui est étonnant chez elle, c'est que la souffrance arrive après la jouissance. C'est pas qu'elle va pas rencontrer la souffrance, qu'elle va raconter dans ses romans comme dans ses mémoires, mais c'est que c'est pas un point de départ. Il n'y a pas le trauma de départ, puis je me développe en gagnant en jouissance.
Je pense à quelque chose de précis, moments où Sartre et elle disent « Nous, on essaie quand on se rencontre d'être heureux, d'être de bonne humeur, c'est notre élégance à nous. » Ça me rappelle un peu ça.
C'est pourquoi pas, oui. Hein. Quand elle dit qu'elle est goulue, pour reprendre à nouveau ce mot, qui est chez elle, elle est d'entrée de jeu dans la jouissance. Moi, je trouve ça, honnêtement, assez fascinant. Parce qu'elle ne va pas dire « je traverse la souffrance et puis je vais y arriver » comme disent tant et tant de littérateurs ou littératrices. Pas du tout.
Duran Jones and the Indications. Morning in America. It's still in San Diego. Can hear a baby cry as the trains in New York City roll thunder down the line. The teachers rise in Richmond as they sleep in San Antonio.
by the harbor lights on Baltimore. Got nurses headed home, and the jails of Maricopa say a man is but his wrong. It's morning in America, but I can't see the dawn. Congressmen in Washington
Atelier. Vincent Josse sur France Inter.
La vie n'est pas gaie, la vie n'est pas un roman, déclaraient les grandes personnes en chœur. La monotonie de l'existence adulte m'avait toujours apitoyé. Quand je me rendis compte que dans un bref délai, elle deviendrait mon lot, l'angoisse me prit. Un après-midi, j'aidais maman à faire la vaisselle. Elle lavait des assiettes, je les essuyais. Par la fenêtre, je voyais d'autres cuisines où les femmes frottaient les casseroles ou épluchaient des légumes. Chaque jour, le déjeuner, le dîner, chaque jour, la vaisselle, ces heures indéfiniment recommencées et qui mènent nulle part, vivrais-je ainsi ? Une image se forma dans ma tête avec une netteté si désolante que je me la rappelle encore aujourd'hui. Une rangée de carrés gris s'étendait jusqu'à l'horizon. C'était les jours, les semaines et les années. Moi, depuis ma naissance, je m'étais endormi chaque soir un peu plus riche que la veille. Je m'élevais de degré en degré. Mais si je ne trouvais là-haut qu'un morne plateau sans aucun but vers lequel marcher, à quoi bon ? Non, me dis-je tout en rangeant dans le placard une pile d'assiettes. Ma vie à moi conduira quelque part.
Voilà, on est toujours dans le fil de cette idée de destin de Simone de Beauvoir. C'était un extrait de quel livre, Jean-Louis Janel ?
Toujours les mémoires de Geneviève Ranger.
Je ne peux absolument pas vous coller, vous, c'était totalement impossible. C'est vrai qu'elle se sait un destin, on l'a dit tout à l'heure. Oui. Elle parle aussi de la ménagère, oui. Comme si c'était quelque chose qu'il ne fallait pas devenir, comme si la société, forcément, à son époque, oui. Lui imposait ce devenir.
Oui. C'est pour ça qu'il faut peut-être lire tout de même Une mort très douce pour voir la réconciliation avec la mère, parce que dans les mémoires de Geneviève Ranger, elle en donne un portrait qui est assez dur.
De soumission
De soumission, et puis aussi d'une manière d'avoir raté sa vie, c'est-à-dire la vie d'une femme comme celle de sa mère est faite de répétitions.
Il y a un très bel essai de Camille Laurence sur la répétition comme faisant partie du destin des tâches quotidiennes, à recommencer continuellement. Et c'est ce qui fait horreur à Beauvoir, parce qu'on ne décide pas, on ne peut pas créer sa vie, on n'a pas la possibilité d'inventer
sa
chaque
vie,
jour,
comme
d'inventer
dit.
Sa vie et de se faire un destin, effectivement. Donc il y a là quelque chose qui est horrible pour elle. Elle a des mots très durs à l'égard d'autres femmes. À un moment, elle dit avoir vu passer comme ça Nizan, qui très jeune s'était mariée avec Henriette Nizan, et Henriette Nizan poussait un landau. Et elle dit, dans Les Morts de jeunes filles rangées, qu'elle a tout de suite pensé, c'est exactement ce que je ne veux pas. C'est ce que je veux fuir. Henriette Nizan, d'ailleurs, lorsqu'elle avait découvert cette phrase, n'avait pas trop apprécié, évidemment. Vous vous en doutez.
Est-ce que, sur ce plan-là, Geneviève Fraisse, elle est d'avant-garde Beauvoir?
La question qui est intéressante, qui vient d'être posée, c'est la question de, vais-je ou non faire un enfant? Oui. Comme dit Nietzsche, hein, c'est soit les livres, soit les enfants. Aut liberi, aut libri. Pour le dire en latin, puisque c'est dans le texte en latin. On fait des enfants ou on fait des livres, mais est-ce qu'on fait les deux? C'est la question qui va être posée aux femmes du XXe siècle. Ma génération, qui arrive en 68
vous,
et 70,
vous avez fait les deux.
Va dire, nous, on va faire les deux. Et ça, c'est clair.
Alors que elle, très jeune, beaucoup, sait encore, qu'elle n'aura pas d'enfants.
Encore qu'aujourd'hui, ça revient, l'idée que ça serait bien de ne pas faire d'enfants. Mais sa génération, c'est très très particulier, parce que beaucoup de femmes vont décider de ne pas faire d'enfants. Je me souviens d'un échange dans les années 50 avec des artistes faites sur une chaîne de Radio France, et elles disent toutes, non, nous, on n'a pas d'enfants. On est peintre, je suis Vira da Silva, je suis Dora Maar, etc. Non, je veux pas.
Une réaction de Jean-Louis Jeannet à vos propos.
Une toute petite précision. Il faut lire de ce point de vue les cahiers de jeunesse qui sont absolument extraordinaires, qui ont été publiés assez récemment. Et l'on voit qu'il y a eu une hésitation chez Beauvoir au tout début, qu'il y a un petit désir d'enfant qui se manifeste à certains moments. Alors, aussi des rêveries sur la manière dont elle pourrait l'éduquer. Elle envisage une éducation qui se ferait notamment par le biais des proches, des amis. Mais il y a tout de même un petit désir initial qui va ensuite, au moment où elle va mettre en place, durant les années 30, cette vie très libre qu'elle va avoir avec Sartre, s'estomper. Et c'est bien sûr effectivement les livres qui vont devenir le projet de vie.
Mais c'est aussi toute une génération qui, dans ces nouvelles femmes émancipées du milieu du XXe siècle, se pose la question de savoir... Comment c'est pas possible de faire des enfants et de faire en même temps une carrière. Et moi, je sais, puisque vous disiez que j'avais des enfants, que quand je l'ai vu un jour accompagnant Françoise Pasquet pour Thiers, chez elle, pour des histoires de procès avec des femmes, etc., elle me dit, comment allez-vous? Je lui dis, je viens d'avoir un enfant. Et avec insolence, je lui dis, vous voulez voir une photo? Elle me dit, oui. Puis je lui montre la photo, elle me dit, pas très fripé, ce nourrisson. Et donc, il y a quand même cette idée que de la sublimation qu'elles ont choisie, les femmes peintres, comme les femmes intellectuelles, le rapport au corps et le rapport à la chair, on peut avoir un rapport à la sexualité, c'est très spécifique. Et moi, ça m'a beaucoup interrogée, étant la fille de cette génération-là, de savoir comment on pouvait à la fois avoir un rapport à la sexualité comme corps, sans avoir un rapport à son corps, comme ma génération a joué quand même les filles hippies, quoi. Pourquoi je dis tout cela? Pour la remettre dans un ensemble. Parce qu'il ne faut pas non plus tout le temps l'extraire. Et d'ailleurs, elle-même, en 70, elle a dit beaucoup de mal de l'histoire du féminisme, on le sait, au tout début du deuxième sexe. Et c'est vrai qu'elle va dire à partir de 70, j'avais pas compris. Oui. C'est nous. Nous sommes un pluriel. Et vous êtes toutes là autour de moi, etc.
On en parlera tout à l'heure, oui, de ce.
Peut-être, mais c'est juste ce passage où elle sort de sa singularité.
Dans le refus de son éducation bourgeoise, de l'éducation catholique aussi qu'elle a reçue, il y a ce qu'elle va définir très vite comme étant son athéisme. Je voudrais qu'on écoute cette archive. On est en 59, elle répond à Radio-Canada.
Je me suis aperçue un beau jour, à 14 ans, à 13 ans, je ne saurais pas vous dire la date exacte, je me suis aperçue un beau jour que je ne croyais plus, que c'était fini. J'avais cru d'une manière très très ardente quand j'étais toute petite. Je croyais aux anges, au petit Jésus, etc. Puis après, j'ai moins cru tout de même à toute cette mythologie plus extérieure. Mais enfin, j'ai cru vraiment à Dieu. Mais petit à petit, j'ai épuré Dieu tellement qu'il n'y avait plus aucun rapport avec ce monde. Parce que Dieu ne pouvait pas être bête comme toutes les personnes pieuses que je voyais ou comme les prêtres à qui je parlais. Il était différent. Il ne pouvait pas non plus s'intéresser à des vétilles. Il a fini par ne plus répondre à rien ni à personne. Et à ce moment-là, je me suis aperçue que il n'existait plus pour moi finalement. Il s'était évaporé. Plus tard, j'ai fait de la philosophie et tout ce que j'ai appris m'a, je ne pourrais même pas dire confirmé. Si vous voulez, par exemple, j'ai lu Kant quand j'avais 18 ans et j'ai tout de suite pensé avec Kant qu'il fallait en effet refuser la métaphysique proprement dite ou l'ontologie et se poser le problème à partir du fait que nous existons sur Terre sans chercher à percer par-delà la chaîne des causes et des effets.
Mais si je comprends bien, votre athéisme est d'abord venu Par intuition chez vous?
Si vous voulez, je me suis aperçue que j'avais aucune raison de croire. Mais comment prouver que quelque chose n'existe pas? On ne peut jamais non plus en faire la preuve. C'est plutôt aux autres de faire la preuve du contraire, n'est-ce pas?
Mais enfin, oui, est-ce que la
preuve... Cette preuve, je ne l'ai jamais trouvée, ni dans ma raison, ni dans ma tête, ni dans mon cœur, donc...
La preuve de quoi?
Oui, la preuve d'un dieu.
Je n'ai trouvé aucune raison de croire. Là aussi, elle a beaucoup d'assurance, Jean-Louis Janel, quand elle dit ça. C'est très clair dans sa tête.
Oui, ce qu'elle dit est extraordinaire parce qu'elle renvoie à une scène effectivement qui se situe très très jeune. Elle est seule à Mérignac, donc la propriété de vacances. Elle est en train de lire. Alors c'est très intéressant parce qu'elle dévore des pommes interdites. Sa mère lui interdisait de manger entre les repas. Évidemment, très bonne éducation. Et elle est en train de lire un Balzac prohibé, un livre prohibé par sa mère qui choisit toutes ses lectures. Et elle se rend compte qu'elle est en train de commettre un péché. Mais elle est parfaitement rationnelle. Et la prise de conscience de l'existence de Dieu passe pour elle par une espèce de déduction rationnelle qui se fait tout simplement d'une certaine manière, ce qui est quand même assez extraordinaire. Alors, ce qu'elle ne dit pas dans l'extrait que vous avez montré, c'est que elle était d'une très grande exaltation quasi mystique lorsqu'elle était jeune, une très grande foi, d'une très grande piété. Mais Beauvoir se rend compte que les deux absolus sont incompatibles, l'absolu de la croyance et cet autre absolu qui est celui de sa présence au monde. Elle raconte très bien lors de cette scène de lecture qu'elle plonge ses mains dans l'eau fraîche des lauriers cerises, elle écoute le glouglou de l'eau et elle comprend que rien ne la fera jamais renoncer aux joies terrestres. Les joies terrestres sont là.
On parlait de jouissance tout à l'heure avec Geneviève.
C'est la jouissance. Il l'invite à en goûter toutes les caractéristiques et donc elle prend conscience que ces deux absolus sont incompatibles, qu'elle est tout entière pour le monde et donc elle décide véritablement qu'elle ne croit plus en Dieu à partir de ce moment-là.
Tout ça fait partie de sa philosophie existentialiste, Geneviève Fraisse.
Oui, je crois qu'il faut ajouter le mot liberté. C'est-à-dire que ce que vient de dire Jean-Louis Janel, c'est qu'elle est face à une série d'interdits. Bon, un, elle ne les comprend pas. Deux, elle les transgresse. Donc, la jouissance va avec la liberté.
À un moment, dans sa jeunesse, vers les 8 ans, elle a eu cette vocation, ce désir de vocation, ce rêve de devenir sœur, bonne sœur, ce qui était une première anticipation de cette vocation qui sera la sienne, qui deviendra le professorat puis l'écriture. Mais ensuite, grandissant, elle prend conscience que non, le monde la requiert tout entière. Donc, c'est une conséquence logique, une évidence qui s'impose et qui est de nature très philosophique d'ailleurs. Effectivement, Dieu ne peut pas exister puisque de toute façon, il n'y a que le monde et ce monde est là. Mais elle mettra tout de même assez longtemps à, comment dire, tirer les conséquences de cette décision rationnelle qui vient très très tôt. Elle respectera les interdits qui sont ceux de sa mère pendant très longtemps, notamment sexuels. Et elle restera une oie blanche jusque très tard, vers les 18 ans, 19 ans. Elle ne dira même à sa sœur dont elle était pourtant très très proche, qui était son double quasiment, elle n'avouera à sa sœur qu'elle ne croit plus que là aussi très tard, et son amie Zaza, dont elle est si proche, là aussi...
Qui va disparaître très jeune.
Et qui disparaîtra très jeune. Elle ne lui avouera dans les larmes que très tard, et Zaza priera pour elle afin qu'elle retrouve la foi. Donc c'est quelque chose de très dur à avouer et qui intervient très tard.
On continue de parler de Beauvoir ensemble, Jean-Louis Janel et Geneviève Fraisse, dans un instant. Je voudrais qu'on écoute un madrigal de Monteverdi. Pourquoi? Parce qu'elle en écoutait beaucoup, paraît-il, Simone de Beauvoir.
di questa tua guerriera, ma questa tua
Comment aurais-je évolué si je n'avais pas rencontré Sartre ? Me serais-je débarrassé plus tôt ou plus tard de mon individualisme, de l'idéalisme et du spiritualisme qui m'encombraient encore ? Je ne le sais pas. Le fait est que je l'ai rencontré et que ce fut l'événement capital de mon existence.
On s'est rencontrés à la Sorbonne, nous préparions tous les deux de l'agrégation, et cette année-là, il venait au même cours que moi. Il était normalien, il venait toujours avec ses amis normaliens, Maheu et Nizan. Ils étaient là très isolés de tous les sorbonnards, et moi j'étais qu'une sorbonnarde. Et j'ai trouvé que son ami Maheu venait travailler à la Bibliothèque nationale. Et que là, il s'est pris de sympathie pour moi. Alors on déjeunait, on causait, et on discutait, il me parlait de Sartre. Et puis un beau jour, il a dit que Sartre finalement voulait faire ma connaissance. Et alors, j'ai pas voulu dès le début parce que j'avais une amitié assez exclusive avec Maheu. Et j'ai envoyé ma sœur à ma place, à Sartre, qui était furieux d'ailleurs. D'abord, il était un peu plus âgé, ce qui compte beaucoup dans ces âges-là. Ensuite, il avait fait l'école normale, ce qui donne une culture bien plus profonde que d'avoir passé du cours désir simplement à la Sorbonne. Et puis, il était terriblement obstiné dans ses théories, dans sa pensée. Il pensait vraiment toute la journée, alors que moi, je pensais beaucoup, mais quand même pas toute la journée.
C'est quoi cet amour-là, Sartre, Beauvoir, Jean-Louis Janel?
C'est extrait très amusant. Pour les auditeurs, le personnage dont elle parle, Maheu, c'est Herbeau dans les Mémoires de jeune fille rangée. Elle lui donne un autre nom, évidemment, parce qu'il est encore vivant au moment où elle raconte cette histoire. Et ce qu'elle ne précise pas non plus, c'est que il a été l'une de ses options amoureuses, d'une certaine manière, et qu'elle était très séduite par lui, physiquement, déjà. Il était marié, déjà, à l'époque, avant même de passer l'agrégation. Et donc, il y avait une sorte d'interdit qui pesait, mais une très grande attraction. Alors que Sartre, à l'époque, avait une réputation assez sulfureuse. Il était vu comme une espèce de contestataire. Il avait une très grande aura auprès de ses camarades. C'est Maheu, d'ailleurs, lui-même, qui lui dit « Sartre pense toujours, même lorsqu'il dort ». Donc, il a cette réputation et il ne la séduit pas physiquement, plus que ça. Donc, l'option Sartre, d'une certaine manière, va être l'une des plus tardives.
Elle va dire « j'ai choisi Sartre ».
Alors, elle le choisit. De fait, Sartre met donc elle prend petit à petit conscience qu'il est le plus intelligent, qu'il est celui qui lui laissera la plus grande liberté, celui dont les traits de caractère, et notamment le désir d'embrasser le monde et d'en témoigner, le désir notamment de faire œuvre, est commun au sien. Et donc Sartre devient petit à petit, apparaît comme une espèce de véritable double. Il est celui qui lui est à la fois, elle le dit très bien dans les Mémoires d'une fille rangée, supérieur, notamment par sa précocité dans les études et par son avance, l'avance qu'il a tout simplement.
Et par son âge, hein, il est plus âgé, elle le disait.
Il est plus âgé, c'est la deuxième fois qu'il passe l'agrégation, il a eu les meilleures écoles, il est passé par Louis le Grand, il est passé par l'école normale supérieure, alors que Beauvoir, effectivement, au cours des a pris beaucoup de retard, elle est tout aussi, sinon plus intelligente que lui, mais le retard pris dans ses études est très grand, il faut qu'elle le comble. Il est donc celui qui va lui permettre de combler ce petit retard, mais en même temps, celui qui va lui laisser une égalité totale, qui va lui laisser un choix, une liberté absolument radicale.
Il y a une admiration mutuelle, hein, Geneviève Fraisse, entre les deux.
Oui, sûrement. Juste, je pensais à quelque chose qu'a répété souvent Maurice de Candillac, qui est donc participe à cette génération et à ce groupe. Maurice de Candillac n'a cessé de dire, jusqu'à sa mort, la plus forte des deux, moi je l'ai pensé dès les années 30, la plus forte des deux, c'est elle. Et par ailleurs, je voulais juste lire...
On va laisser répondre Jean-Louis Janel.
Juste une phrase de Sartre, qui disait, à propos de privilèges, « J'avais un lecteur privilégié qui était vous. » Quand vous me disiez « je suis d'accord, ça va », ça y était, je publiais le livre et je me foutais des critiques. Ouais. Donc c'est aussi ce que je voulais rajouter, c'est l'estime absolue ouais. dans l'égalité dont vous parliez à l'instant, ouais. c'est-à-dire elle devient celle qui peut lui donner le privilège du roi, à savoir « vas-y, tu peux y aller » et personne d'autre ne compte.
Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Geneviève. Et je crois que ce qui est important, effectivement, dans cette anecdote rappelée au sujet de Maurice de Gandillac, elle était deuxième, mais en réalité de quelques fractions, etc., de rien du tout. C'était sa première année à l'agrégation. Elle avait un retard considérable dans les études, on l'a dit. Donc, sa réussite à l'agrégation est exceptionnelle. Je crois que Beauvoir, effectivement, et Gandillac avait raison sur ce point, avait un esprit de synthèse absolument extraordinaire. Une capacité à saisir des systèmes, et d'ailleurs, Sartre lui reconnaissait cette aisance, à en offrir une synthèse, une simplification. Lorsqu'on lit ses essais, ils sont d'une accessibilité extraordinaire, bien plus grande que ceux de Sartre. En revanche, je pense que Sartre, et c'est elle-même y insiste, avait un désir de créer un système philosophique qui n'était pas forcément celui de Beauvoir, ou moins en tout cas celui de Beauvoir, même si elle l'a fait effectivement avec le deuxième sexe. Elle invente une question. Elle invente plus une question qu'un système dans le deuxième sexe. Elle fait de la question du statut des femmes, de la féminité, une véritable question philosophique. En revanche, elle n'invente pas un système comme Sartre le fait avec l'être et le néant, ce qui est quand même une différence assez importante. Et sur, effectivement, ce deuxième point qu'évoquait Geneviève, c'est très important parce que Sartre et Beauvoir se sont relus l'un l'autre continuellement.
Oui, jusqu'au
bout. Il n'écrivait rien qui ne soit relu, approuvé, commenté, discuté par l'autre, mais dans les deux sens. Et cette circulation est très importante. Ils ne sont jamais au service l'un de l'autre. Il y a une autonomie de leurs deux œuvres qui s'écrit en commun ou conjointement, mais Beauvoir n'est pas la muse de Sartre et Sartre n'aliène pas en quelque sorte Beauvoir. Et cette capacité à créer deux œuvres qui sont conjointes mais en même temps autonomes l'une l'autre, c'est vraiment une spécificité. Il n'y a pas d'autre couple dans l'histoire de la littérature
qui fonctionne comme ça.
Qui a eu cette égalité radicale au sein du couple.
Vous avez déjà dit que le principe du mariage était obscène. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ?
Je veux dire que si deux êtres restent rivés l'un à l'autre par des institutions et par des liens purement extérieurs, alors qu'il n'y a plus rien dans leur cœur et dans leur chair qui les rattache vraiment l'un à l'autre, on arrive à quelque chose qui me semble aussi répugnant que peut-être la prostitution.
Mais est-ce qu'on a déjà trouvé mieux que le mariage quand même dans les relations entre hommes et femmes en vue de la procréation?
Je crois qu'en tout cas, la notion de mariage est en train de grandement s'assouplir et que le mariage avec facilité de divorce, comme il se pratique à présent, mettons en Amérique, est un énorme progrès sur le mariage institutionnel et qui condamnait une femme à jamais à être l'épouse de cet homme-là et à n'être que cela pendant toute sa vie.
Votre réaction, Jean-Louis Janel, à cette archive, Simone de Beauvoir, sur le mariage?
Elle est amusante, mais il y a une audace assez incroyable de la part de Beauvoir. Elle a la même audace lorsqu'elle parle de la maternité, effectivement. Et de fait, beaucoup des personnages qu'elle décrit dans ses romans sont des personnages aliénés, que le mariage a aliéné. Et cette critique de l'institution du mariage, qui est tout de même très courageuse dans les années 50-60, était, moi je trouve, d'une très grande modernité, et très belle et très juste. Elle décrit beaucoup de personnages, de femmes, qui ont en quelque sorte fait de leur mariage à la fois une espèce de prison et un système de chantage à l'égard de leurs époux, et les époux eux-mêmes un moyen de, à la fois d'être servis continuellement, et tout en brisant, tout en rompant les liens promis, etc. Donc il y a une très grande hypocrisie générée même par l'institution que Beauvoir en quelque sorte liquide. Pas besoin de mariage. Alors c'est très intéressant parce que dans les mémoires de jeune fille rangée, elle ne cesse de réfléchir à la manière de pouvoir échapper au mariage, mais en même temps au célibat, car le célibat est tout aussi dangereux pour une femme. Elle le sait très bien. Les mémoires de jeune fille rangée sont peuplées de ces espèces de femmes célibataires, enseignantes, etc., qui sont en quelque sorte vouées à une vie assez triste, selon elle. Donc il s'agit de trouver un moyen terme entre les deux. Et ça va être le concubinage avec Sartre, mais solution scandaleuse à l'époque, qui ne l'est moins aujourd'hui, évidemment.
Oui, ils appellent tous les deux à l'époque, comme s'il y avait une sorte de contrat plus que tacite, hein, ouais. vraiment formulé entre eux. Sartre, c'est mon amour nécessaire par rapport à mes amours contingentes.
Oui, parce que oui, la sexualité célèbre. Dans tout ça, posons oui. aussi les bonnes questions. Quoi.
Oui. on a su que la sexualité s'arrêtait au bout de 8 ans, c'est ça, entre eux
oui. Avant la Seconde Guerre mondiale, oui.
Et que donc, ouais. lui, comme elle, pouvait
rappelons
avoir
qu'il y a beaucoup de femmes célibataires, parce qu'il y a beaucoup de morts dans les guerres. Hein.
Oui. Ouais.
Et rappelons aussi que le divorce par consentement mutuel ne revient, je dis revient, parce qu'il avait été donné en 1792, sous la Révolution française, le consentement mutuel ne revient quand, Vincent?
Dites-nous.
1975.
Voilà, j'allais vous le dire.
Ben voilà. Donc 1975, c'est bien, c'est une bonne date.
Geneviève Fraisse, vous êtes frappée encore en entendant cette archive, comme Jean-Louis Janel, par l'audace par rapport au mariage de Beauvoir, cette prise de position là-dessus.
C'est-à-dire qu'à partir du moment, je vais revenir à quelque chose que j'ai déjà dit, à partir du moment où on pose la jouissance en premier, on n'a pas le trac, comme je dis, on y va. J'insiste parce que il faut l'admirer, parce que pour fréquenter beaucoup d'autres écrits ou productions de femmes de ce siècle et du siècle précédent, c'est-à-dire des deux siècles de l'ère démocratique, il faut voir par quel chemin toutes ces personnes passent. Lire Virginia Woolf, par exemple, essentiel.
Elle adorait le journal de Virginia Woolf.
Mais là, on parle des très grandes. Et donc là, on voit bien à quel endroit on va être la souffrance. Est-ce que je peux vous lire un exergue du deuxième tome du deuxième sexe, parce qu'il est essentiel. C'est une citation de Kierkegaard. « Quel malheur que d'être femme. Et pourtant, le pire malheur quand on l'est, quand on est femme, est au fond de ne pas comprendre que c'en est un. » Vous voyez cette phrase de Kierkegaard. De toute façon, les phrases des philosophes sont extraordinaires. Moi, je les collectionne aussi sur la représentation de ce que c'est que c'est pas de chance d'être une femme. De Diderot à Nietzsche, ils se privent pas pour l'expliquer. Ils c'est pas seulement des misogynes et des antiféministes. C'est des gens qui expliquent que vraiment c'est très très dur d'être une femme. Mais là, c'est l'idée du savoir du malheur. Donc si elle peut nous mettre ça en exergue, c'est qu'elle est par-delà la représentation du malheur et qu'elle pense qu'elle peut raconter ce malheur qui n'est pas le sien.
On va écouter un peu de joie, pas de malheur, Sidney Béchette. Il est possible que Beauvoir et Sartre, au tabou, par exemple, avec leur copain Bion, aient écouté et vu Béchette jouer ça en 52 dans les rues d'Antibes. On va se retrouver après les informations pour continuer d'aborder l'existence, la pensée, la vie nourrie, goulue, pour reprendre un adjectif employé tout à l'heure de Simone de Beauvoir. On parlera aussi bien sûr de son féminisme. Nous recevrons Annie Ernaux, nous recevrons une jeune femme, une féministe, Rebecca Amselem. Vous restez avec nous s'il vous plaît, Geneviève Fraisse, Jean-Louis Janel. À tout de suite.
Pourquoi les femmes ne contestent-elles pas la souveraineté mâle? D'où vient en la femme cette soumission?
Est-ce que vous-même, vous avez souffert d'être femme?
Non, jamais. C'est ce que j'explique dans mes mémoires. Et c'est pour ça qu'on s'est beaucoup trompé si on a cru que le deuxième sexe, c'était un livre de revendication. À vrai dire, je ne m'étais même pas souciée de ce problème jusqu'au moment où, à travers les autres femmes que j'ai rencontrées, avec qui j'ai parlé, dont j'ai vu l'expérience, je me suis rendu compte qu'il y avait un malheur proprement féminin.
Vous avez reconnu sa voix, c'est Simone de Beauvoir, l'écrivain, la romancière, l'essayiste, l'auteur de mémoires que la Pléiade vient d'éditer. Simone de Beauvoir qui revit sur France Inter avec entre autres Geneviève Fraisse qui est avec nous, philosophe, historienne, spécialiste de la pensée féministe. Ça va comme définition ?
Ça peut aller.
C'en est une. Jean-Louis Janel, je le rappelle, est professeur de littérature à Armand et puis il fait partie de ceux qui ont permis aux lecteurs de relire ou de lire les mémoires de Simone de Beauvoir en Pléiade. Et puis il y a une jeune femme qui a une trentaine d'années qui est avec nous, qui a été prof d'économie mais qui n'enseigne plus maintenant. Elle m'a dit « Présentez-moi comme activiste ». Bonjour, Rebecca Amsalem. Ça veut dire quoi, activiste ?
Activiste, ça veut dire se battre pour l'égalité entre les femmes et les hommes, en tout cas quand on est activiste féministe.
Et les glorieux. Si je vais sur Internet et que je cherche la newsletter Les Glorieuses, qu'est-ce que j'y trouve ?
La newsletter Les Glorieuses, c'est une lettre d'information donc, que j'ai lancée il y a 3 ans, qui a pour objectif de parler de plein de sujets différents. Donc, je m'adresse essentiellement aux femmes, mais je vais parler de politique, d'amitié, de sujets publics ou de sujets plus personnels, toujours en citant uniquement des femmes. Pour remettre déjà sur un piédestal les femmes, les intellectuelles qui ont été oubliées à travers l'histoire, et plus qu'oubliées, elles ont été même invisibilisées à travers l'histoire. Et je suis activiste parce que je veux remettre ces femmes, ces intellectuelles à l'ordre du jour.
Est-ce que vous avez aidé les étudiants qui passaient la grecque à travailler sur Beauvoir? Parce qu'elle est au programme Mémoire d'une jeune fille rangée. Est au programme de la grecque cette année, Jean-Louis Janel.
Oui, ce qu'on appelle les internes sont passés, mais ce n'est pas Beauvoir qui est tombé à l'agrégation, c'était Marivaux. Donc voilà, ce sera pour une prochaine fois, peut-être pour les
grand
externes.
Féministe.
Oui, aussi.
Mais quand vous avez enseigné à des jeunes étudiants, enfin des étudiants qui ont, je ne sais pas, 25 ans, 30 ans vous...
Alors, il y a des âges très très différents parce qu'il y a ce qu'on appelle l'interne et l'externe.
Mais je voudrais savoir la réception par
alors,
ces étudiants.
Alors, leur réception en général, elle était très positive. J'ai eu l'impression qu'elle était beaucoup plus positive pour ceux qui sont plus âgés,
ah oui.
Qui effectivement s'intéressent, entrent dans le texte, se l'approprient, y voient la dimension extrêmement humaine, politique, philosophique, plus que pour les étudiants qui sont plus jeunes et qui passent l'agrégation en ce qu'on appelle l'externe, où effectivement c'est dans la suite de leurs études et ils n'enseignent pas encore, alors que les internes, eux, enseignent déjà et peuvent parfois avoir 40, 45 ans.
Certains découvraient Beauvoir ?
Non, tous avaient lu en général, ou beaucoup en tout cas, avaient lu les Mémoires de jeunes filles rangées ou connaissaient vaguement le deuxième sexe. Beauvoir, c'est le type d'auteur que l'on croit connaître très souvent, pas forcément parce qu'on l'a lu, mais parce qu'on a tellement entendu parler que c'est le genre d'auteur qu'on se dit... Très souvent, ne pas avoir besoin de lire, on la connaît déjà suffisamment.
Eh bien, on va se retrouver tous les trois, si vous le voulez bien, avec les auditeurs, mais on va d'abord écouter une femme, Bess Ditto de Gossip, Hevie Cross, sur France Inter.
It's a funny way to make ends meet when the lights are out on every street. It feels alright, but never complete without you. We'll be right back.
just you. It's already been done, undo it. It takes two, it's up to me and you to prove it.
L'humanité est mâle et l'homme définit la femme non en soi, mais relativement à lui. Elle n'est pas considérée comme un être autonome. La femme, l'être relatif, écrit Michelet. Et elle n'est rien d'autre que ce que l'homme en décide. Ainsi, on l'appelle le sexe, voulant dire par là qu'elle apparaît essentiellement au mâle comme un être sexué. Pour lui, elle est sexe. Donc elle l'est, absolument. Elle se détermine et se différencie par rapport à l'homme et non celui-ci par rapport à elle. Elle est l'inessentiel en face de l'essentiel. Il est le sujet, il est l'absolu, elle est l'autre.
Marianne Bassler, lisant un extrait du Deuxième Sexe, alors je précise les choses, on est en 49, Simone de Beauvoir a 41 ans, elle écrit une somme, un essai, ce Deuxième Sexe donc, livre que l'on trouve en deux volumes dans la collection blanche de Gallimard, pas dans la Pléiade d'ailleurs, Jean-Louis Jamel, le Deuxième Sexe.
Pas encore, mais ça ne saurait tarder.
Il y a eu beaucoup de lecteurs et de lectrices qui s'en plaignent, mais ça va venir.
Je botte en touche. Je ne sais pas, peut-être que ça viendra, Foucault a été en Pléiade, Beauvoir le sera certainement aussi, mais vous remarquerez que les essais philosophiques de Sartre ne sont pas encore en Pléiade non plus.
Donc, oui, enfin, il est entré en Pléiade un an après sa mort.
Bien sûr.
C'est-à-dire, il y a bientôt, quoi, donc c'est en 81. Oui. Elle est morte quelques années après.
Non, je ne dis pas le retard, bien sûr.
Plusieurs décennies après.
C'est vrai.
C'est quand même étonnant, surtout après tout ce qu'on vient de dire dans les minutes et l'heure qui a précédé, qui était quand même de montrer la force, la puissance de ses écrits, de cet intellectuel, de cette écrivaine. Et on est quand même, au niveau de la machine éditoriale, comme dans une inversion des choses.
Je ne nie pas le retard, mais à vrai dire, il a été collectif, ce retard. C'est là, aujourd'hui, depuis quoi, 5 ans, que l'on commence à s'agiter autour de ce qu'ils ont. Les féministes le faisaient depuis très longtemps. Mais n'était pas très écouté.
Ça n'a pas suivi. Oui,
ça n'a pas suivi. Mais à vrai dire, dans le monde de l'édition, cette invisibilisation des femmes dont vous parliez, elle était là depuis très très longtemps. Et la Pléiade n'est pas beaucoup plus en retard que beaucoup d'autres maisons d'édition.
Il y a très peu de femmes, bien sûr.
Mais ce retard, il était général. On ne s'en inquiétait pas, à part les féministes.
Alors parlons du Deuxième Sexe. On va écouter l'écrivaine Annie Ernaux nous parler de la manière dont ce livre a agi sur elle quand elle l'a lu. Mais je voudrais que vous nous présentiez, si vous voulez bien, Geneviève Fraisse, ce livre. Quel est le projet de Beauvoir quand elle écrit le Deuxième Sexe?
C'est le projet d'une totalité. C'est-à-dire de traverser tous les lieux où on a parlé des femmes. Les faits et les mythes, d'une part, mais après, elle va faire chapitre après chapitre, elle va traverser la littérature, l'anthropologie, la philosophie, c'est-à-dire qu'elle va faire c'est là où je parle de son savoir encyclopédique, mais elle va le construire pour savoir ce que c'est que, je sais pas, la femme mariée, la fille, l'homosexuel, l'intellectuel.
Oui. La jeune fille, l'initiation sexuelle, la lesbienne, la femme mariée, la mère, la vie de société.
Oui, mais elle commence aussi par l'histoire, ce qui, moi, m'avait rendu malade à l'époque, parce qu'elle dit beaucoup de mal de l'histoire du féminisme. Et alors là, permettez-moi de dire une chose, l'introduction, j'en ai beaucoup parlé, mais la conclusion, c'est pareil. Elle reprend intellectuellement toute sa démarche et elle se pose la question de savoir comment sortir du conflit avec ce mot fraternité, qui est quand même le dernier mot de ce livre, qui est un peu étonnant parce que la question des
frères...
Elle
rêve d'une fraternité entre hommes et femmes, c'est beau ça reste un vœu.
Mais vous savez que fraternité, ça veut dire frère.
Oui.
Bon, là, il y a un petit problème genré. Là.
Alors, il faut dire sororité.
Non, j'ai pas dit ça non plus. Mais elle emploie le mot Mitsein, le mot allemand Mitsein, à plusieurs reprises, qui est extrêmement important. Mais
ça veut dire quoi?
Ça veut dire être avec, en allemand, ou être ensemble, ou être avec. Et elle se demande, très honnêtement, elle est à la conclusion, après tout ça, peut-on sortir de conflit?
En 1978, c'est-à-dire 2 ans avant sa mort, Sartre parle de ce livre, Le Deuxième Sexe, donc sorti en 49, avec Simone de Beauvoir, devant la caméra de José Dayan. Écoutez-les.
Non, mais ce qui est curieux, simplement, c'est que vous avez commencé comme une femme non féministe, une femme de ce point de vue quelconque, qui veut savoir ce que c'est d'être femme. Et en écrivant le livre, vous êtes devenue féministe, vous avez vu vos ennemis, vous les avez attaqués, et vous avez bien précisé ce qu'était qu'être femme.
Oui, mais je suis restée...
C'est la valeur du livre.
Je suis restée sur un plan théorique. Et maintenant, aux yeux des militantes, ces livres peuvent avoir une certaine valeur de... parce qu'elles n'ont pas tellement de théoriciennes. Mais moi-même, je suis restée simplement sur le plan théorique. Et je n'ai pas fait un engagement féministe comme je l'ai fait ces dernières années.
Ben, c'est normal.
Oui, c'est normal.
C'est normal.
D'abord, il n'y avait pas de mouvement féministe à ce moment-là.
Oui. Et puis, vous êtes devenue en écrivant le livre. C'est la meilleure manière.
Je suis venue surtout après que le livre ait existé pour d'autres femmes.
Geneviève Presse.
Juste après, c'est extrêmement important quand elle dit après. Il y a un livre entier qui a été fait par Ingrid Galster, une chercheuse allemande aujourd'hui disparue, pour nous donner tous les textes qui ont été balancés contre le deuxième sexe. Ça fait un livre entier. Oui. Elle a eu quelques soutiens, mais elle a eu surtout beaucoup d'ennemis.
On va en
donc
parler, bien sûr.
Après, moi je trouve ça extrêmement... Il faut lire ce livre car il est extrêmement instructif.
Redites-nous le titre.
Je crois que c'est le deuxième sexe, tout simplement.
Merci.
Parce au moment de la publication.
Mais c'est Ingrid Galster qui a fait ce livre et on le trouve facilement. Oui. Mais c'est passionnant, vous êtes d'accord?
Oui, tout à fait.
Alors, on vous retrouve dans un petit moment, tous les trois. Je voudrais vous faire entendre la manière dont l'écrivaine, je le disais, Annie Ernaux, l'auteur de La Place, de Les Années, elle qui est passée, Jean-Louis Janel, du roman au récit autobiographique. Et bien, voici comment Annie Ernaux a réagi quand elle a lu Beauvoir. Elle avait 19 ans. On est en 59, c'est 10 ans après la sortie du deuxième sexe.
Ah, il faut savoir que quand je lis Beauvoir, je suis en classe de philo. En fait, je ne sais rien de Beauvoir à ce moment-là. Je n'ai strictement rien lu du tout, mais rien du tout. Par exemple, je ne sais même pas quelle est la compagne de Jean-Paul Sartre. Pour moi, il y a Sartre d'un côté, il y a Beauvoir de l'autre. Je sais que bon, ce sont des existentialistes, tous les deux, mais je ne sais rien de plus. Et donc, je vais lire le deuxième sexe en étant tout à fait neuve, d'une certaine manière, sur sa vie. Je ne sais rien de la vie de Beauvoir. Et j'attaque vraiment le deuxième sexe, et là, c'est le choc. Pour une fois, bon, vraiment, on parle du sexe des femmes. Et puis, évidemment, ce qui me frappe le plus, c'est quand elle parle vraiment de la condition des femmes. Quand elle étudie l'écart, l'amoureuse ou la jeune fille, avec tout ce que ça suppose, les règles, la défloration, etc. Et puis, cette sorte d'élan qu'elle m'insuffle, elle donne un programme tout de même. Je le résume maintenant avec mon idée, c'est que la femme doit se hisser à la transcendance. Voilà, parce que elle démontre tout au long que la femme est immanence. Bon, maintenant je discute ça, hein, c'est évident. Mais là, c'est comme si j'étais enlisée et que d'un seul coup, je sors la tête de l'eau, quoi. Non, mais c'est vraiment très fort, hein. Et je lui voue une reconnaissance d'avoir m'avoir secoué, quoi. Secoué d'une... Mais oui, mais parce que à cette époque-là, presque 10 ans avant 68, et le monde a très peu évolué depuis, je vais dire, pour des siècles. Hein. Il n'y a pas de contraception, bon, il n'y a pas d'avortement, mais voilà. Donc, et moi, j'ai subi de plein fouet l'année qui précède cette domination masculine et qui était partagée par les filles. On était toujours à l'idée que la virginité était tout de même l'idéal, vous voyez. Et moi, je m'étais pas bien comportée aux yeux de ni des garçons ni des filles, et donc j'ai eu le titre de putain sur les bords. Hein. C'était vraiment le terme. On était dans cette idéologie, hein, littéralement, et c'était l'homme propose et la femme dispose. C'était le mantra de l'époque. Donc, Simone de Beauvoir, là-dessus, bah, c'est un souffle qui balaie. Et moi, j'ai voulu vraiment vivre, à partir de ce moment-là, vivre en étant, j'allais dire, maîtresse de mon corps, de ma liberté. C'était très compliqué. C'était tout de même se battre contre les idées en cours de l'époque, les conseils, même les, j'allais dire, plus que les conseils de ma mère, les interdictions de ma mère, qui, sur le plan sexuel, étaient intraitables. En revanche, ma mère allait dans le même sens que Beauvoir, c'est-à-dire que je devais avoir un métier, faire des études, avoir un métier, ne pas dépendre d'un homme. Et c'était très novateur tout de même dans ces années 50.
Donc maman Duchesne, votre mère, plus cette figure.
Cette figure, oui.
Presque de conseillère amie, de sœur, il y a peut-être une sororité entre vous.
Oui, je pense plus que je ne l'ai jamais vue, Simone de Beauvoir, comme une mère. Mais comme une grande sœur, oui, certainement, qui avait eu un cheminement qui était tout de même pour moi l'idéal. Je dois reconnaître que les mémoires d'une jeune fille rangée, même si je ne m'y reconnaissais pas du tout dans l'enfance, dans ce côté, comme elle le dit d'ailleurs dans les mémoires d'une jeune fille, elle avait un côté oie blanche. Elle ne savait rien sur la sexualité, elle ne s'y intéressait pas. Elle était dans un milieu qui était très très protégé. Elle était très très loin des réalités, de toutes sortes, sociales, etc. Mais je me suis retrouvée dans cette grande période qu'elle a. Cette espèce de confusion qu'on voit très très bien. C'est un maelstrom d'idées et ça correspond assez bien pour moi à cette période-là que dans ma tête j'appelle des années de formation. Elle n'emploie pas ce terme. Là, je ne me souviens plus, mais qui sont extrêmement importantes pour toute la vie. Et alors cet amour, cet élan vers la vie que j'aurais souhaité avoir, que je n'ai pas en réalité, que je n'ai pas. Je me suis, moi, efforcée de l'avoir.
Quel guide, hein ? On a l'impression qu'elle vous a aidé à vous conduire d'une certaine manière dans la vie et à vous conduire en sujet libre.
Au sujet libre, c'était toujours ça. En revanche, moi j'étais évidemment dans un milieu dominé, ma mère ouvrière, ancienne ouvrière, commerçante, je ne pouvais pas avoir la même possibilité de liberté. Et puis, il y a aussi un côté, elle vivait à Paris. Elle est allée à la Sorbonne. Vous savez, ça n'a rien à voir avec une petite université de province dans les années 50, éloignée de ce savoir qui était le privilège de la bourgeoisie. Beaucoup de mes camarades du lycée de Rouen, elles sont allées en Hippocagne. Je ne savais même pas ce que c'était. Je me souviens d'une fille qui a dit « Moi, je vais faire Sciences Po ». Je me disais, mais je sais pas ce que c'est que Sciences Po. Voilà, déjà, je sais pas ce qu'est Hippocagne, je ne sais pas ce qu'est Sciences Po. Et il y avait cette espèce de limitation inconsciente des ambitions.
Et finalement, votre orientation, vous la devez à Beauvoir.
Je me suis rattrapée, en quelque sorte. Voilà. Mon idéal, c'était d'être prof et puis d'écrire. Au fond, c'était Beauvoir, quoi. Bon, mais là encore, j'ai été rattrapée par... j'ai eu un avortement, plein de choses qui sont... non, je n'ai pas... c'est normal, je veux dire. On ne peut pas suivre quelqu'un, être copie conforme. Ça suppose suivre à la lettre des choses. Non.
Aucune histoire banale gravée dans ma mémoire. Aucun bateau pirate ne prendra le pouvoir. Aucune étoile filante me laissera dans le noir. Aucun trac, aucun. Et demain, tout ira bien, tout sera loin. Là au final, quand je prendrai le large. Sera loin, donne-moi la main, là au final, quand je prendrai le large. Aucune larme, aucune ne viendra m'étrangler. Aucun nuage de brume dans mes yeux délavés. Aucun sable ni la dune n'arrête le sablier. De lune, aucun et demain, tout ira bien, tout sera loin, là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin, donne-moi la main, là au final, quand je prendrai le large. Aucun autre que toi. Aucune clé à bord, aucune chance pour moi. Et demain,
sera bien, tout sera loin, là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin, donne-moi la main, là au final, quand je prendrai le large, aucun requin. Aucune langue de bois, aucun chaos, aucun. Et demain, tout ira bien, tout sera loin, là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin.
Grand Atelier sur France Inter.
Je souris parce que je dis à Geneviève Fraisse, attention, ça va être à nous, et elle me répond, on est bavarde comme des filles. Je n'ai jamais dit une chose pareille, Geneviève Fraisse.
Mais j'ai intitulé une fois un article Les Bavardes.
Les Bavardes.
Alors, voyez.
Je connais aussi des bavards. Vous savez, quand j'étais petit à l'école, on me mettait du scotch sur la bouche pour ne pas parler. Voilà, ma vie n'a aucun intérêt. Rebecca Amselem, vous avez entendu le témoignage de notre écrivaine Annie Ernaux, que je trouve assez émouvant parce que elle nous dit, j'étais enlisée, je lis Beauvoir, Le Deuxième Sexe, et je sors la tête de l'eau, et je deviens, ou en tout cas j'essaie de décider de ma vie, et je deviens une femme libre. Oui. Est-ce que vous avez eu, vous, une réaction aussi entière en lisant, en découvrant Beauvoir un jour dans votre vie?
Quand je l'ai lu, je me suis dit qu'il y avait tellement d'expériences que j'avais vécues, ou de moments de ma vie, qui étaient des sources de frustration, sans pour autant savoir pourquoi.
Lesquelles, par exemple?
C'est... La manière dont on éduque les enfants. Pourquoi est-ce que les filles avaient forcément droit à soit sage, soit gentille, ne bouge pas trop, mets une robe, soit polie, alors que les garçons c'était ah mais de toute façon, effectivement, s'il a ce comportement, c'est normal, c'est parce que c'est un garçon. Et en fait, la lecture du Deuxième Sexe et même des autres ouvrages d'ailleurs de Simone de Beauvoir me permettait juste de dire effectivement, il existe quelque chose, je ne suis pas folle, il existe quelque chose qui explique qu'il y a cette différence de comportement. Et au-delà de ça, cette lecture est on ne peut plus actuelle parce que quand on est féministe, et j'imagine que Geneviève, on vous le fait tous les jours, on dit mais pourquoi est-ce que vous êtes féministe aujourd'hui, pourtant vous avez les mêmes droits que les hommes. Je pense que c'est vraiment la première chose qui revient en permanence. Et il y a Simone de Beauvoir qui dit quelque chose d'extrêmement juste au travers du Deuxième Sexe, c'est que effectivement les femmes ont les mêmes droits juridiques que les hommes, et encore quand le livre est paru c'était pas le cas, mais il existe un déséquilibre entre ces droits et les pratiques sociales, et je pense que ce livre, Le Deuxième Sexe, tient à ce déséquilibre. Et elle dit que tant qu'il y aura un déséquilibre entre les droits et les pratiques sociales qui font que les femmes, encore aujourd'hui, sur bien des points sont les inférieures des hommes, les femmes ne seront pas totalement libres.
Et par exemple les salaires.
Les salaires, ça c'est effectivement le combat que je mène depuis 3 ans maintenant. Sans égalité économique, on peut pas prétendre à une égalité juridique, on peut pas prétendre à une égalité culturelle. Il y a cette phrase qui est utilisée en long et large en travers de Simone de Beauvoir qui dit que tant qu'il y aura pas cette égalité économique, finalement les femmes ne seront pas complètement libres. Plus de 60 ans plus tard, c'est encore le cas aujourd'hui, il existe une égalité des salaires qui fait que les femmes aujourd'hui en France sont payées en moyenne 25% de moins que les hommes, un quart de moins que les hommes.
Rebecca Amselem, quel livre de Beauvoir avez-vous lu, vous ?
Alors, le premier livre que j'ai lu de Simone de Beauvoir, c'était Les Mandarins, que j'ai absolument adoré. Et à la suite de ça, ça a été La Force des Choses, et puis La Force de l'Âge. Et en fait, Le Deuxième Sexe, je l'ai lu très tardivement, après avoir commencé... entre mille guillemets, ma carrière d'activiste féministe. J'avais commencé par une partie du Deuxième Sexe qui est une femme indépendante ou la femme indépendante. Qui est,
Jean-Louis Janel,
parce que vers la femme indépendante. Hein. Oui, parce qu'il est sorti en petit
ouais,
folio.
Oui, c'est ça. Tout à fait. Qui était à 2 euros et je me souviens de l'avoir acheté parce que c'était sur le stand à côté
c'est
de la
C'est la fameuse
caisse.
Conclusion, effectivement, qui est extraordinaire, une synthèse fabuleuse.
Geneviève Fraisse, je reviens sur le témoignage que vous avez entendu d'Annie Ernaux. Annie Ernaux est plus âgée que vous avez une dizaine d'années de différence. Elle parle de choc pour une fois dans la vie des femmes cette lecture. Est-ce que vous percevez ce qu'elle veut dire ?
Il y a deux choses que j'ai entendues dans ce qu'elle disait. La première, c'est comment elle décrit son époque et comment les filles sont, on est complètement coincées.
Dans les années 50 ?
Oui, dans les années 60, c'est-à-dire 10 ans plus tard, c'est pareil.
Coincées comment, Geneviève
Fraisse ? Mais coincées de toutes les façons. Vous êtes là, vous devez aller à une surprise party, alors il faut que vous mettiez telle robe et puis vous restez sur le bord en attendant qu'on vous invite à danser. Enfin, des trucs, des horreurs. J'ai des souvenirs horribles de toute cette période-là où on est complètement coincées. Mais on nous envoie à l'école, comme les garçons, donc on va aussi avoir accès à ce fameux savoir qui est si important et dont je parlais, avec l'idée que bien sûr on aura un métier plus tard, chose aussi qui vient d'être appelée comme essentielle. Mais la deuxième chose qu'il y a dans son entretien, et qui me fait penser à ce que vous disiez Jean-Louis Janel tout à l'heure sur sa présence au monde, c'est-à-dire que précisément, elle va immédiatement dire, j'ai dit « je » pour le deuxième sexe, mais maintenant je dis « nous ». Alors c'est un échange avec Alice Schwarzer dans les écrits, et elle répond « c'est nous les femmes ?» Non, elle dit « nous les féministes ». Et donc, elle est d'une présence au mouvement féministe entre 70 et 80 de manière énorme. Moi, j'en ai plusieurs expériences, notamment les émissions Sartre, par exemple, le soutien aux éditions Tierce, mais elle va aussi soutenir Question Féministe, elle va soutenir la Ligue des Droits des Femmes, etc. C'est-à-dire qu'elle va démultiplier ses soutiens. Ça ne veut pas dire, à l'époque, engagement au sens où elle va militer dans ces structures-là.
Le manifeste des 343 salopes
aussi,
pour l'avortement.
Mais aussi, par exemple, Libération. Enfin, c'est un mode d'être des intellectuels que d'être dans ces soutiens-là. Elle va avoir cette présence. Elle va ouvrir les temps modernes aux féministes,
la
notamment
revue,
avec la
moderne,
rubrique
oui.
Le sexisme ordinaire, qui est une rubrique extraordinaire, qui a été republiée après par Le Seuil, qui est vraiment une anthologie d'humour féministe dont je conseille la lecture encore aujourd'hui. Et du coup, c'est pas la lecture qui pour nous va être important, cette démultiplication. Claire Etcherelli est à ce moment-là la secrétaire des temps modernes, elle nous reçoit pour transmettre à Simone de Beauvoir telle et telle chose, enfin, il y a une animation comme ça.
Revenons à sa vision du féminisme en 1949. C'est l'année de sortie du deuxième sexe et c'est l'année de cette interview.
Je souhaite que les femmes deviennent des êtres humains qui soient absolument autonomes et responsables d'eux-mêmes comme les hommes. Par ailleurs, je ne crois pas du tout avoir négligé le fait qu'il y a un donné, au contraire, j'ai consacré à cela tout mon premier volume, un donné physiologique, historique, social, qui définit la femme comme étant autre que l'homme, profondément différente. La question, c'est de savoir, à partir de là, quelles sont ses chances, quels chemins peuvent être ouverts à sa liberté, et c'est de l'aider à se sauver comme être humain dans le monde où elle a naturellement, comme tout individu d'ailleurs, une situation très singulière. On s'est mépris d'ailleurs si on a cru que j'étais, mettons par exemple, contre la maternité. Je suis simplement contre un certain asservissement de la femme à la maternité. On s'est mépris si on a cru que j'étais par exemple contre l'amour, alors que j'ai simplement réclamé que l'amour soit une relation de sujet à sujet, de personne à personne, et non pas une espèce d'esclavage et de mysticisme qui fait que alors la femme se mettra aux genoux de l'homme comme un dieu, et du même coup d'ailleurs lui donnera toutes les charges qu'on donne ordinairement à un dieu, etc., etc. Pour moi, ça se réduit à quelque chose de très simple, il faut que les femmes travaillent. Et comme ça, elles ne seront plus des parasites. C'est à la fois la garantie de leur indépendance, de la conscience qu'elles prendront d'elles-mêmes, des responsabilités qu'elles auront à assumer, et la base sur laquelle alors elles peuvent revendiquer des droits civiques et avoir vraiment un rôle dans la société. Et trouver par-dessus le marché leur bonheur en même temps que leur liberté.
Votre réaction à cette parole très claire, très sûre, très assurée de Beauvoir, Rebecca Amsalem, on est en 49, hein?
Ça me fait penser à l'interview que j'ai eue avec l'activiste américaine Gloria Steinem il y a quelques mois. Et donc je lui parlais du féminisme français et je lui demandais qu'est-ce qu'elle en pensait et quelle était sa vision sur les féminismes français. Et effectivement, la première réponse était Simone de Beauvoir, 49, le deuxième sexe. Ça nous a ouvert les yeux. Et ça nous a ouvert les yeux sur la notion de choix, et c'est exactement ce dont Simone de Beauvoir parle à l'instant. C'est le choix d'être mère ou de ne pas être mère, le choix d'aimer ou de ne pas aimer. Et dans la notion de choix, effectivement essentielle dans le combat féministe aujourd'hui, c'est exactement pour ça qu'on se bat, pour que les femmes puissent faire le choix qu'elles veulent, mais surtout qu'elles aient les meilleures options possibles au moment de faire ce choix-là. Et le deuxième point, c'est effectivement sur la notion de travail, la liberté des femmes qui seraient conditionnées au fait qu'elles aient un travail, et je dirais même au fait qu'elles aient de l'argent et du pouvoir finalement. Aujourd'hui, par exemple, dans le monde, on est quand même, il y a une donnée incroyable qui est que 99% des revenus de la propriété, donc les revenus de la propriété, c'est les revenus liés aux actions, liés aux immeubles, etc. 99% de ces revenus reviennent aux hommes et 1% reviennent aux femmes. Donc on est dans un rapport d'inégalité économique 99-1. Et tant qu'on sera dans ce rapport inégalitaire, on ne pourra pas prétendre à une une égalité sociale ou une égalité civique, comme elle le mentionne dans son interview.
Geneviève Fraisse.
J'ai deux petites remarques très contemporaines sur la question de l'autonomie économique, qui me paraît, bon, effectivement, le nerf de la guerre, qu'elle le dise en 49, c'est formidable. On continue sans cesse à le dire. Deux choses. Il n'y a pas eu de mouvement MeToo si les femmes qui ont pris la parole, à commencer par les États-Unis, donc des comédiennes, n'étaient pas en sécurité économique pour le faire. Il faut de l'autonomie économique pour prendre la parole, et c'est ce qui est apparu l'an dernier dans le mouvement MeToo. Deuxième chose, prenons le mouvement des Gilets jaunes. Il est très clair que la question des femmes dans le mouvement des Gilets jaunes, et notamment celles qui sont en dépendance des aides sociales, parce qu'elles n'ont pas la possibilité d'avoir une autonomie économique, c'est au cœur d'un des problèmes que nous devons affronter aujourd'hui. La précarité des emplois dits partiels, etc., tout ça fait que ça crée ce fameux asservissement et dépendance des femmes par rapport au monde des hommes. Je dis là, au monde des hommes exprès. Donc, je veux dire, la question de l'autonomie économique, là, on touche à quelque chose multiforme et en même temps totalement actualisé par nos actualités politiques.
Rebecca ?
Oui, je voulais juste revenir sur effectivement le mouvement MeToo qui avait été possible grâce à l'autonomie économique et le pouvoir qu'avaient ces femmes aux États-Unis. Et c'est aussi la raison pour laquelle ça n'a pas autant pris en France. Les actrices françaises n'ont pas autant d'argent que les actrices américaines, elles n'ont pas autant de pouvoir, et c'est pour ça que, par exemple, les accusations envers le réalisateur Luc Besson n'ont eu que très peu d'écho dans la presse aussi.
On poursuit ce débat, et ce n'est pas un débat d'ailleurs, c'est une conversation autour de la mémoire et de l'action et de la prise de parole et des écrits de Simone de Beauvoir dans un instant. On va écouter une chanson de 1949, l'année du deuxième sexe, c'est Sarah Vaughan.
C'est vrai qu'on m'a traité de lesbienne, ce qui d'ailleurs à mes yeux n'est pas une insulte, mais enfin après le deuxième sexe, en effet. Bon, j'ai vu, avec étonnement quand même, ce que ça m'a révélé, ça a été l'animosité de certains hommes que je croyais être tout à fait proche de moi, par exemple comme Camus, et qui a été absolument irrité par le livre en disant que j'avais caricaturé le mal français, etc., etc. Il y en a eu d'autres aussi qui ont manifesté une mauvaise humeur extraordinaire. Alors ça m'a beaucoup surprise parce que je croyais que cette espèce d'égalité des hommes et des femmes que j'avais dans mon milieu très très proche, avec Sartre, avec Merleau-Ponty, avec certains autres, je pensais que c'était une chose acquise.
Il y a un professeur que je connaissais, un professeur de Sorbonne,
qui était un beau-frère de Merleau-Ponty et qui a pris le livre et qui, au bout d'une lecture assez brève, l'a jeté d'un bout à l'autre de la salle dans la fureur. Et il y a eu des articles extrêmement désagréables en disant que j'étais humiliée d'être une femme et qu'alors je voulais, à cause de ça, ridiculiser les hommes. Et les gens me regardaient souvent dans les restaurants, parce que le livre avait quand même eu un certain succès, on avait parlé de moi, en ricanant et en se poussant plus ou moins du coude.
Et l'attitude des communistes, par exemple ?
Ah ben, l'attitude des communistes a été tout ce qu'il y avait de décevante, parce que j'étais pas communiste, mais enfin, je pensais quand même que la gauche avait un certain intérêt dans une question comme celle-là. Or, ils ont écrit dans les lettres françaises que les ouvrières de Billancourt s'en foutaient bien de tous ces problèmes que je posais, ce qui est entièrement faux. Parce que les ouvrières de Billancourt sont aussi sensibles à la condition de la femme que n'importe qui.
C'est important de rappeler qu'effectivement, elle est jugée nymphomane, pornographe, bourgeoise, lesbienne. Elle le disait, on l'accuse d'ignorer la cause des femmes ouvrières, de détruire le sentiment maternel, de vouloir tuer l'amour. Et son livre est mis à l'index par le Vatican. Il paraît même que Mauriac écrit à la revue Les Temps Modernes en disant « Je sais enfin tout du vagin de votre patronne ». Quelle violence, Jean-Louis Janel. Oui. Il faut recontextualiser tout ça.
Oui, la violence est très grande, mais on est aussi dans un contexte très particulier. On est après la guerre, la France se reconstruit, le Parti communiste a une politique extrêmement nataliste. Et effectivement, lui qui avait pu à d'autres moments être plus ou moins aux avant-postes, là, au contraire, remet la femme à la maison. Et la femme de Thérèse, Jeannette, est l'une de celles qui promeut cette politique nataliste. Donc la réaction des communistes est d'autant plus décevante pour elle qu'au contraire, ils l'ont soutenue et qu'elle n'a accordé un entretien qu'à un journal communiste au moment de la sortie des mandarins. Donc elle avait pour souci d'être proche, de se montrer proche du Parti communiste. Donc cette réaction, elle est d'autant plus décevante pour elle qu'elle le dit, mais là, il y a peut-être quelque chose d'un peu étonnant pour nous. Elle se sentait plus ou moins à égalité, en tout cas avec les hommes qui étaient ceux de son entourage. Le mot qu'elle a à propos de Camus dit la séparation qui est déjà en train de s'opérer à ce moment-là. C'est en 52 qu'interviendra la rupture vraiment définitive entre Sartre et Camus. Mais cette rupture, elle est déjà en train de se dessiner d'une certaine manière. Et il y a là, pour Beauvoir, quelque chose qui est assez douloureux.
Rebecca Amselin, je voudrais qu'on évoque ce que vous faites sans doute au quotidien, là, remplir et nourrir cette newsletter qui s'intitule Les Glorieux. Si je vais sur Les Glorieux, je peux prendre connaissance de ce qui se passe en culture, je peux avoir des points de vue de femmes sur le pouvoir, des points de vue de femmes sur le sexe aussi. Si je clique sur sexe, je tombe sur quoi, par exemple?
J'ai pas en tête les derniers articles que j'ai écrits.
Si, un des derniers articles, c'est « Est-ce que t'as joui ?»
Alors, c'est pas moi qui l'ai écrit, celui-ci. L'article « T'as joui » a été écrit par une jeune femme qui s'appelle Dora Mouto, qui a créé un compte Instagram, d'ailleurs qui s'appelle « T'as joui » également, où les femmes font part de leur expérience sur leur orgasme et pour qu'elles puissent en parler librement.
Oui, puis les hommes, elle est agacée, cette femme, il est drôle son texte d'ailleurs, elle est agacée parce que tous les hommes posent cette question, visiblement, est-ce que t'as joui après l'amour? Et elle supporte plus que les hommes lui demandent ça. C'est important de parler de cet article, par exemple, parce qu'il y a de l'humour aussi dans votre page. Il faut pas tomber dans...
Ah bah oui,
il faut pas avoir peur d'un féminisme. Vous parliez d'activisme, ce sont des mots quelquefois qui effraient, et ce serait dommage de ne pas plonger dans Les Glorieuses, parce qu'il y a cette légèreté, cet humour, et puis cette intelligence. Et si Geneviève Fraisse, vous êtes allée cliquer, vous aussi?
Ah mais moi, je reçois la lettre des Glorieuses.
Et ça vous intéresse?
Ah ben bien sûr, ça m'intéresse. Et je pensais en vous écoutant, t'as joui. Mais vous vous rendez compte que ça fait juste quelques années, 3, 4, 5, 6 ans, je ne sais pas très bien, qu'on montre ce qu'est un clitoris pour les manuels scolaires. Et encore, là, ça se dispute autour de ça. Mais moi, de ma génération, l'idée qu'on montrerait l'image du clitoris, ça m'avait même pas, je suis désolée, je m'en excuse, traversé l'esprit.
À qui vous vous adressez, Rebecca?
Je m'adresse essentiellement aux femmes, donc je m'adresse à mes lectrices comme si c'était uniquement des lectrices, donc ce qui énerve quelques-uns de mes lecteurs.
Et vous avez envie qu'elles sachent quoi? Vous avez envie de les informer sur quoi?
L'idée, c'est pas de les informer, mais c'est plutôt de leur donner des clés dans leur réflexion féministe. Il y a aujourd'hui 90 000 abonnés à la newsletter, essentiellement des femmes, mais il y a aussi 10% qui sont des hommes. Et donc ce sont des personnes qui s'intéressent à la question féministe, qui veulent avoir des sources sur cette question-là, mais à aucun moment je vais leur dire pensez comme ci ou pensez comme ça. Je vais aborder une question. Là, par exemple, la newsletter qui sort le mercredi était sur la notion d'allié dans le combat féministe et la notion de complice. On a tendance à dire que, même parmi les activistes, on veut que les hommes soient des alliés. Et J'ai repris un tweet de la réalisatrice Amandine Gay qui reprenait un texte écrit par le groupe des indigènes aux États-Unis et qui disait en gros on veut pas d'alliés, nous on veut des complices. Pourquoi ? Parce que être allié, ça signifie ne pas se mettre en danger. Ça veut se dire, bah, c'est par exemple les hommes, même dans les années 20 d'ailleurs, qui disaient je suis féministe, je suis pour le vote des femmes, mais qui eux-mêmes ne se mettaient pas en danger pour changer le système patriarcal dans lequel on est. Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est qu'on veut des complices à la cause féministe. On veut des hommes qui prennent le risque de dire si jamais il n'y a pas de femme qui intervient dans cette conférence, je ne viens pas à cette conférence. Si jamais dans cette entreprise, on ne respecte pas l'égalité salariale, je ne veux pas travailler pour cette entreprise. On veut vraiment des personnes, des hommes, qui soient complices de la cause féministe.
Il y a beaucoup de chemin encore à mener.
Je pense qu'il y a beaucoup de chemin, on est aux prémices de quelque chose, mais je pense qu'on n'a jamais été aussi proche de la révolution féministe. Je pense qu'on n'a jamais été aussi proche d'un moment où on peut changer effectivement ce système et où les femmes seront vraiment les égales des hommes. Je pense néanmoins que ça doit passer d'abord par une égalité économique et donc d'avoir des mesures concrètes pour faire en sorte que les femmes gagnent autant que les hommes aujourd'hui.
Ces mots-là, vous auriez pu les prononcer, vous les avez peut-être prononcés en 68, Geneviève Fraisse.
Après 68, j'ajouterais une chose, il faut aussi dire quelque chose de moins optimiste, c'est que les droits des femmes sont réversibles, et notamment le droit à l'avortement, dont on suit quand même l'actualité qui passe de « c'est bien en Irlande, c'est pas bien en Pologne ». Ça, ce sont des choses où, disons, j'adore l'optimisme de ma voisine, je suis d'accord pour que les hommes deviennent des complices, même plus qu'ils soient impliqués. Mais je sais aussi, pour fréquenter les temps qui sont passés, et pas seulement le mien, combien on est un peu une Sisyphe en bas de la montagne, quoi.
Le Grand Atelier, Vincent Josse, sur France Inter.
la chanteuse malienne Fatoumata Diawara. Bon, il se passe pas mal de choses encore dans l'esprit Beauvoir, Geneviève Fraisse. Ça doit vous faire plaisir d'entendre Rebecca qui se dit activiste et qui a beaucoup de choses à dire encore sur l'inégalité, notamment salariale, entre hommes et femmes. Comment réagissez-vous?
Je réagis comme quelqu'un qui a commencé aussi. J'appelais ça la rue et la bibliothèque, de faire en même temps la rue et la bibliothèque. Donc si la rue rejoint la bibliothèque et si la bibliothèque rejoint la rue, tout me va.
Merci d'avoir été, de nous avoir éclairé sur le parcours de Beauvoir, de nous avoir parlé de sa place dans la littérature et aussi dans la société. Geneviève Fraisse, je signale entre autres Le privilège de Simone de Beauvoir qu'on trouve aux éditions Folio. Il y a d'autres livres qui seront inscrits sur la page du Grand Atelier de la Pléiade, donc les mémoires, faites-vous plaisir. Ça coûte toujours un petit peu d'argent, un volume de la Pléiade, ça coûte environ 60-70 euros.
62, non ? Ou 70, je ne sais plus.
69-70 euros, un volume, oui. Il y en a deux, et puis il y a l'album aussi. Puis, si vous voulez mieux connaître Rebecca Amselem, vous pouvez aller sur la newsletter Les Glorieuses, mais aussi lire son dernier livre à Rebecca Amselem, Les Glorieuses, chronique d'une féministe chez Webeck. Et puis Geneviève Fraisse, il y a aussi votre livre Les excès du genre, une enquête philosophique. Rebecca.
Je voulais juste ajouter une conclusion par rapport à cet ouvrage de Simone de Beauvoir, c'est que elle a permis à toutes les femmes aujourd'hui de dire « je » et de raconter leur histoire. Le « je » est éminemment politique pour les femmes. Ne serait-ce parce qu'on leur a dit que leur histoire n'était pas légitime et qu'elle devait être invisibilisée. Donc elle nous a vraiment permis, en tout cas moi aujourd'hui, de dire « je ». Et je voulais aussi remercier infiniment Geneviève Fraisse. Grâce à vous et à vos travaux, on n'en serait pas là aujourd'hui. Merci.
Vous voulez bien qu'on se quitte avec Sartre et Beauvoir, encore une fois, deux ans avant la mort de Sartre?
Alors comment voyez-vous votre œuvre aujourd'hui? Parce que vous êtes comme moi, vous l'avez à peu près terminé. Vous pourrez écrire encore. Mais en gros, notre œuvre est derrière nous.
Là, je suis bien d'accord.
Alors donc, on peut penser quelque chose dessus. On n'est pas en train de la faire dedans. On est dehors, elle est finie. Alors qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que j'ai réussi à peu près ce que je voulais. Je ne veux pas dire que c'est ce que tout écrivain veut. Et vous avez voulu d'ailleurs beaucoup d'autres choses et d'autres écrivains veulent autre chose. Mais moi, ce que je voulais essentiellement, c'était donc parler aux gens pour ainsi dire de bouche à oreille. Parler de manière que les gens s'identifient avec mes héros, mes héroïnes, ou tirent profit de ce que je leur disais. Et là, je pense que j'ai réussi, parce que Le deuxième sexe, entre autres, m'a valu énormément de lettres de femmes qui s'y référaient, qui disaient que ça les avait aidées. J'ai même vu des psychiatres qui m'ont dit s'en servir pour faire prendre conscience à certains de leurs malades, certaines surtout, parce que ça a été surtout utile aux femmes. Bon, donc là, je pense qu'il y a quelque chose qui a été assez réussi. Et dans mes autres romans et dans ma biographie aussi, il y a eu certainement beaucoup de femmes qui sont plus ou moins identifiées à moi, ou qui ont cherché en tout cas à penser une certaine ligne de vie à partir de celle qui avait été la mienne.
Valérie Ayestaray a réalisé cette émission, Perrine Malinge et Karen Dehé m'ont aidé à la préparer. Il y avait à la technique Nicolas Cazot. Vous retrouvez les chansons et la musique sur la page du Grand Atelier sur franceinter.fr. Elles sont proposées par Thierry Dupin.